Tania, tati, hai tavera po.
So, so, solidarité, avec les sans-papiers.
J'appelle moi.
Et j'ai envie de papa,
oui,
ou de maman en prison.
So, so, solidarité, avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde, hein.
Les tests, osseux, sont d'un autre âge. Ils te disent merde, mon cartilage. Les tests,
bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF, le Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et banlieue, ou www.rfpp.net pour nous écouter en streaming absolument partout dans le monde, pourvu d'être doté d'une connexion suffisamment rapide quand même. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site du RESF à la rubrique radio. Alors pour y aller, c'est très simple, soit vous faites http://resf.info/radio et là vous verrez émission et vous trouverez l'émission ainsi que les 522 émissions précédentes qui sont toutes archivées sur le site, ou alors vous faites resf.info, vous en profitez pour vous balader un petit peu sur le site pour passer en particulier par la rubrique pétition que vous trouverez dans la colonne de gauche et vous pouvez décider ou voir un certain nombre de situations et de mobilisation, et vous trouverez la rubrique radio un petit peu plus bas, toujours sur cette même colonne de gauche. Et donc vous pouvez aussi nous écrire, on aime bien recevoir du courrier, soit pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission, pour nous proposer de traiter tel ou tel sujet, nous demander ou nous apporter des compléments d'information, ou simplement pour nous dire bonjour. Alors pour nous écrire, c'est très simple, soit vous prenez une feuille, un crayon, vous mettez la feuille dans une enveloppe que vous adressez à Radio Fréquence Paris Pluriel, enfin, d'abord émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, rue de la Solidarité, 75019 Paris, émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, rue de la Solidarité, 75019 Paris, ou alors vous nous écrivez par mail à resf.fpp@gmail.com. Et si vous nous écrivez, vous pouvez en profiter pour glisser un petit ou un gros chèque. Si les petits, c'est très bien. Si les gros, c'est très bien aussi. Un gros chèque à l'ordre de l'association PARIS, P-A-R-I-S, pour Programme Associatif Radiophonique d'Intérêt Social. Ça, tout simplement parce que vous aurez remarqué que cette radio ne fait aucune publicité, que nos subventions et les quelques subventions qu'on avait baissent, et que comme on n'a pas besoin d'annonceurs, on a besoin de nos auditeurs. Donc, si vous pouvez nous envoyer un peu tout, ce serait très bien. Et si vous êtes par Internet, donc sur le site www.rfpp.net, vous trouverez « Faire un don ». Donc, ce serait très bien de nous en faire. Aujourd'hui, donc, nous sommes en compagnie de Nadia Nguyen, du RSF, RSF 91. Bonjour Nadia.
Bonjour.
De Mathilde Godoy. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
De Marion Beaufils. Bonjour Marion.
Bonjour.
Donc toutes les deux, vous êtes intervenantes CIMAD au Ménil-Amelot. Et on devrait recevoir tout à l'heure, mais là elle arrivera un petit peu en retard sans doute, Isabelle Tarzali, qui est intervenante au CRA de Guyane. Comment s'appelle la ville ? C'est pas Cayenne.
À Matoury.
Pardon ?
À Matoury.
Matoury, voilà, c'est à côté de Cayenne. Donc on va parler ensemble, évidemment, de l'actualité de la rétention au Ménil-Amelot et à Cayenne, mais aussi de ce qui s'est passé cet été au Ménil, au Ménil. Ça a été très fort au Ménil, mais en fait, c'était, je crois, un petit peu dans tous les centres de rétention de France, et à tel point que la CIMAD s'est retirée pendant 3 semaines du centre de rétention.
Voilà, c'était historique, 3 semaines de retrait au mois de juillet.
à cause de ce qui se passe au centre de rétention.
Voilà, et puis on parlera aussi de ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, au Mesnil-Amelot et en rétention de façon plus générale, et de la campagne que la CIMAD s'apprête à lancer. Et Nadia, tu nous parleras donc en particulier, parce que tu interviens absolument tout le temps dans l'émission, mais tu nous parleras en particulier de l'expulsion d'un papa qui laisse deux gamins français ici et où il n'y a plus de maman.
Voilà, j'en parlerai tout à l'heure.
Voilà, et puis donc quand même rapidement, notre petit journal, donc la semaine dernière, on avait écouté Marcel Descarvel parler de d'expulsion et de tentative d'expulsion à Amiens. Alors, l'interview avait été enregistrée, quand on l'a diffusée, c'était donc mercredi après-midi, et c'était une interview qui avait été enregistrée mardi après-midi, parce que c'était plus pratique comme ça, que Marcel n'était pas disponible pour nous en parler quand il fallait, donc on ne savait pas encore qu'il y allait avoir au moment où notre émission était diffusée, qu'il y avait déjà eu du nouveau et du mauvais, et ce donc pendant et après l'émission. À Amiens, donc, mercredi 18, à 7h du matin, alerte téléphonique d'une compatriote de la famille Narine Dojvili. Donc cette alerte téléphonique disait qu'une quinzaine de policiers entouraient l'hôtel pour tenter d'appréhender toute cette famille dans leur chambre. Donc les militants sont arrivés à peu près 15 minutes plus tard, mais ont été écartés par la police et ont découvert Nounou, la maman, hurlant en pyjama, pendant que d'autres policiers s'affairent à faire habiller Nicolas, qui a 3 ans, et Anna Maria, qui a 1 an et demi. Tous les résidents restant debout, hébétés, condamnés à observer. Une heure plus tard, les 5 voitures civiles et militaires démarraient en trombe, car, question posée, il était impossible de connaître la destination intermédiaire entre Amiens et la Géorgie. Donc, grâce à la colère d'un passager de l'avion qui a entendu dans sa langue maternelle Nounou, la maman, demander à l'aide, il y a eu un vent de protestation qui s'est levé, faisant débarquer la famille. Nounou était encore en partie en pyjama, bras menottés derrière le dos depuis plus de 4 heures, les pieds liés, et Pahata, le papa, sans force. À 22h30, on apprenait le retour de la famille à leur lieu d'hébergement, mais les affaires avaient été déjà déménagées par le 115. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont quand même fait une demande, enfin demandé d'aller aux urgences à l'hôpital d'Amiens, et c'est le gérant de l'hôtel qui les a conduits. Au petit matin, donc le collectif RESF a décidé dans l'urgence. Le collectif RESF et la famille ont décidé dans l'urgence de se rassembler devant l'école Jacques Prévert à Amiens et de rédiger une pétition qu'on trouvera, je ne vais pas la lire maintenant, mais qu'on trouvera donc sur la rubrique pétition sur le site RESF. À 8h, donc jeudi, c'était jeudi 19 septembre, la famille donc est présente devant l'école avec leur fils Nicolas et Nounou, le petit dernier, et avec le certificat médical établi par le CHU pour l'ensemble des hématomes, tête, bras, doigts, etc. Donc de la maman, et la problématique de l'hébergement avait déjà commencé, puisque la famille était de retour du CHU à 2h du matin et a été obligée de dormir chez des compatriotes. Alors, grâce à la mairie de Longuenot, dans l'agglomération d'Amiens, un hébergement provisoire a été trouvé. Alors, promis, on en reparlera dès qu'on aura plus de nouvelles. Et à Marseille, donc on en parle depuis la rentrée, finalement, Montassar, un lycéen, a été expulsé et un autre jeune est en rétention. Peut-être expulsé maintenant, peut-être pas. Et le feuilleton Saint-Just continue. Donc on va tout de suite écouter Anne Gauthier, jointe par téléphone ce matin, nous en parler. Bonjour Anne, tu nous appelles depuis Marseille et tu vas nous donner des nouvelles plus ou moins bonnes de ce qui se passe par chez vous, notamment de choses dont on parle, enfin qui sont presque des feuilletons puisque c'est Saint-Just, ça fait quasiment un an qu'on en parle, et de Montassar, on en avait déjà parlé la semaine dernière et la précédente.
Voilà, et donc là, Montassar a été expulsé cette semaine malgré la mobilisation de son lycée et du RESF, et des profs et des élèves, et bon, mais ça n'a pas suffi. Et du même lycée, il y a toujours un jeune en rétention qui est dubliné, donc qui devrait être reconduit en Italie, là, prochainement, puisque les appels ont tous été rejetés. Et ça fait une rentrée un peu sévère quoi, pour le RESS 13, parce que ça faisait quand même un petit peu longtemps qu'on n'avait pas eu d'expulsion de lycéens, et là ça fait deux d'un coup, et c'est beaucoup. Et malgré la mobilisation, ce qui prouve bien que tout le monde s'en fout. Voilà. Et quant à Saint-Just, eh bien, le procès qui aurait dû avoir lieu jeudi dernier a été, le 19, a été reporté. Au motif que le diocèse, qui est toujours propriétaire du bâtiment, a changé de tactique, et ils ont bien fait, c'est-à-dire qu'ils abandonnent les poursuites contre les solidaires qui ont ouvert le squat pour mettre à l'abri des mineurs et des familles, et ils demandent au conseil départemental de leur rembourser toutes les sommes qu'ils ont eues à charge, c'est-à-dire l'eau, le chauffage, l'électricité, depuis le 16 décembre où nous avons ouvert le bâtiment. Tout ça parce que le conseil départemental lui-même a, dans un mémoire en défense contre un référé liberté pour un jeune qui est dans le squat et qui a une ordonnance de placement provisoire, pour contrer ce référé liberté, le conseil départemental lui-même a dit qu'il n'y avait pas d'urgence de placer ce jeune puisqu'il était dans le squat Saint-Just, c'est-à-dire, je cite, correctement logé, nourri, vêtu et qui bénéficie d'un accompagnement éducatif par les solidaires. C'est le conseil départemental lui-même qui le reconnaît, qui reconnaît notre action, et du coup bah, ils n'ont pas du tout envie que le squat ferme, puisqu'on fait leur boulot. Il y a actuellement 320 personnes dont 150 mineurs isolés à l'intérieur du squat. Et donc le diocèse a décidé, au lieu de poursuivre les solidaires qui occupent avec les jeunes et les familles, de poursuivre le conseil départemental qui effectivement se repose sur la prise en charge financière du diocèse depuis 9 mois au lieu de remplir ses obligations. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le squat. Et on ne sait pas du tout comment le conseil départemental va pouvoir se défendre de ça. Et surtout, le diocèse reconnaît que notre action, elle est légitime, mais que par contre, le conseil départemental est dans son tort le plus absolu de ne pas prendre en charge ces jeunes.
Voilà. Ok, parce que si on reprend très vite, hein, donc au départ, le squat, c'est dans des bâtiments qui appartiennent au diocèse. Le diocèse avait été favorable, puis ces bâtiments devaient servir à faire une école. Et pour
une école de travailleurs sociaux, un institut de formation de travailleurs sociaux. Oui. Et là, nous, on reste là. Et non seulement on reste là parce que les familles et les jeunes n'ont pas le choix, mais là, maintenant, le conseil départemental lui-même reconnaît notre efficacité. Ce qui est quand même complètement magique. Et donc, c'est bien de le dire parce qu'il y a plein de squats un peu partout en France, sans doute un peu moins importants que le nôtre, mais quand même. Et c'est intéressant on fait passer, vous pouvez écrire au RESS 13 qui fera suivre, on peut faire passer le mémoire en défense du conseil départemental qui considère qu'on fait du très bon travail dans un squat. Et ça peut servir éventuellement à d'autres squats que ça peut intéresser. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Anne. Peut-être que tu as des choses à ajouter ou...
Non. Je vous laisse avec la CIMAD et le centre de rétention. Il y a aussi beaucoup de choses à dire.
Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on te retrouvera bientôt sans passer par le téléphone, mais en direct dans notre studio.
Allez, ben pourquoi pas. Allez, c'est pas une promesse, mais c'est un projet. Allez, voilà.
Au revoir et bonjour à tous les gens de Marseille et de Saint-Just et du Sud.
Et salut à la capitale.
Voilà, donc c'était Anne Gauthier ce matin enregistrée depuis Marseille. Et Nadia, tu vas nous parler donc de l'expulsion aujourd'hui ou...
Non, c'était dimanche.
Dimanche.
De M. Keïta Amadou, donc un monsieur malien qui est en France depuis 2009, qui a 2 enfants. La maman est française. Bon, toxicomane, donc dans tous les documents que j'ai vus... Il est reconnu qu'elle est partie et que personne ne sait où elle est. D'ailleurs, le juge avait le juge aux affaires familiales le confirme. Le papa, bon voilà, il a fait des petites bêtises et il est passé en prison. Donc, je pense que c'était à Fleury-Mérogis puisqu'il s'est retrouvé au centre de rétention de Palaiseau. Et donc les enfants ont été confiés à l'ASE. Et ils sont venus voir très régulièrement le papa. Et l'ASE a fait un courrier au tribunal pour dire que le lien avec, entre le papa et notamment le fils aîné de 4 ans est très fort, qu'ils emmènent le gamin au parloir, qu'avec le papa, ils passent du temps à jouer, à dessiner, qu'ils échangent avec le papa des courriers, des dessins. Bon, la zoge joint des dessins du gamin qui écrit, bon, il a 4 ans, hein, il écrit « Papa » avec plein de cœur. Et malgré ça, eh bien, M. Keïta a été expulsé dimanche. Donc j'ai trouvé que, enfin, c'est comme d'habitude, hein, c'est toutes les histoires d'expulsion, c'est-à-dire qu'on lui avait dit qu'il serait expulsé le 25, et en fait, ils sont venus le chercher le dimanche matin, et ils l'ont renvoyé au Mali. Bon, l'avion est parti avec 49 minutes de retard, donc on peut supposer qu'il a essayé de résister, mais ça n'a servi à rien. Donc là, ce qui se passe, c'est que deux enfants sont maintenant placés à la ZEU. Le père a une interdiction du territoire de 3 ans, donc il ne reviendra probablement pas, sauf s'il arrive à revenir, mais c'est, bon, c'est un peu compliqué quand même. Donc là, le préfet de l'Essonne, avec son obligation de quitter le territoire français, le juge qui a confirmé l'OQTF, ont décidé de fabriquer des orphelins. Et là où je trouve que c'est vraiment inadmissible, bon, c'est ce qu'on on voyait évoluer depuis déjà quelques années, mais là, aujourd'hui, clairement, un enfant de sans-papiers, même si la mère est française, cet enfant n'est pas un enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant n'existe pas. Cet enfant n'a aucun droit, n'a aucune existence aux yeux de ces personnes qui prennent des décisions. Et je trouve ça vraiment à la fois très grave et vraiment lamentable.
Mais c'est effectivement très grave, peut-être une...
C'est effectivement des enfants qui n'existent même pas dans les décisions administratives en fait, prises par les préfets. Souvent, que ce soit dans les décisions de placement en rétention, dans les décisions d'expulsion, les enfants ne sont même pas mentionnés. Donc, ils sont simplement rattachés à leurs parents et puis expulsés comme s'ils étaient un bagage de plus. Et clairement, il y a vraiment une différence de traitement entre les enfants français étrangers et les étrangers, d'une manière générale, sont finalement des êtres humains de seconde zone. On ne leur reconnaît pas leurs droits en tant que parents, on ne leur reconnaît pas leurs droits à la protection, à la santé. C'est assez grave, oui, ce qui se passe en ce moment.
Ouais, c'est tragique parce que je trouve le pire là-dedans, c'est que cette histoire, elle nous rappelle des tas d'autres histoires, des tas d'autres... personnes qu'on a pu rencontrer, des gens, nous, au centre de rétention, donc on les croise là-bas, mais des gens qui nous racontent qu'ils ont leurs enfants tout seuls dehors ou qui se sont fait arrêter alors qu'ils étaient avec leurs enfants et les enfants ont été laissés seuls, ça arrive tout le temps. Ou alors, je repense même ce matin encore, j'ai eu un entretien avec un homme dont la femme vient d'attaquer son 9e mois de grossesse. Bon, ben, a priori, il verra jamais sa fille.
C'est honteux.
C'est honteux, c'était des choses qu'on a toujours vues, mais qu'on voyait beaucoup moins, j'ai l'impression. C'est ouais. Pas une étude très scientifique, mais quand ouais. J'y vois tout simplement le regard qu'on peut avoir depuis cette émission. Et la semaine dernière, on a parlé donc d'un charter qui était parti depuis Toulouse avec 8 familles, dont 5 enfants. Mmh. Ce matin, ce sont les enfants qu'on embarque, qu'on amène à l'avion avec la maman, ce matin, dans l'émission de maintenant, donc mercredi dernier, c'est une famille qu'on embarque, qui a été capturée à l'hôtel. La maman n'a même pas eu le temps de s'habiller, elle est à moitié en pyjama dans l'avion. Bon, c'était des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps.
Ouais, c'est ça, ça se banalise complètement, mais faut reconnaître que c'est plutôt efficace en termes de dissuasion pour les familles qui vivent en France, quoi. Pendant de longues années, on savait quand même que quand on avait des enfants, le droit à la famille, à la vie privée familiale primait sur le reste. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
Et puis, je reviens sur ce que disait Anne à propos de la mobilisation. Elle disait qu'il y avait une grosse mobilisation, mais qu'il n'en avait rien à faire. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on constate aussi beaucoup en Essonne. Il y a eu, à la fin de l'année scolaire, une énorme mobilisation dans un lycée, une mobilisation spontanée des lycéens. Donc, qui a duré plusieurs jours. Donc, après, les profs sont intervenus pour les aider à organiser ça. Donc, la préfecture les a reçus très rapidement. pour en gros leur dire nous vous avons entendu, et puis rien, il ne s'est rien passé après. Donc bon, le lycéen et son père n'ont pas été expulsés, mais l'OQTF est toujours là. Mmh. Alors que bon, c'est vrai qu'il y a quelques années, avec une mobilisation comme ça, ils auraient pu revenir sur l'OQTF. Là, ils en ont, mais rien à faire. Vous vous mobilisez, vous vous rassemblez, vous faites couper la circulation. Bah, ok, vous nous embêtez, on vous reçoit, et puis après, terminé. Il ne se passe rien.
C'est ce qu'on a vu aussi il n'y a pas longtemps avec une famille albanaise et puis une mobilisation très très forte dans le collège du jeune qui avait été arrêté avec sa mère et ses deux sœurs. Et finalement, ils ont été libérés par un juge, mais le préfet lui-même, il n'en avait absolument rien à faire. C'est une famille de Châteauroux, il y avait une mobilisation, enfin, c'était très, très beau, quoi, très fort. Mais effectivement, ça n'a pas d'impact comme ça avait pu avoir précédemment.
Ouais. Alors, je propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale en restant à Marseille hein, avec les Fabulous Troubadours et Pasqua Fatima. Et puis après, on reviendra donc, sur les choses qui sont passées au Ménilamlo. Parce que quand on voit ce qui se passe, quand on voit la vue du Ménilamlo, finalement, on a un effet loupe. Quoi. On voit bien ce qui. Donc, tout de suite, Pasqua Fatima.
Fatima a eu chaud, mon ami. Pourquoi Fatima a eu chaud?
Pasqua donc pas il expulsé, mon ami. Pasqua donc pas il expulsé.
Pourquoi voulait-il expulser, mon ami? Pourquoi voulait-il expulser?
Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers.
Pourquoi n'avait-elle pas les papiers, mon ami? Pourquoi n'avait-elle pas les papiers?
Pasqua on lui avait pas donné, mon ami. Pasqua on lui avait pas donné.
Pourquoi ne lui avait-on pas donné ses papiers? Pourquoi ne lui avait-on pas donné?
Pasqua le dossier il traînait, mon ami. Pasqua le dossier il traînait.
Pourquoi ce dossier il traînait, mon ami? Pourquoi ce dossier il traînait?
Pasqua on voulait l'oublier, mon ami. Pasqua on voulait l'oublier.
Pourquoi voulait-on l'oublier ce dossier? Pourquoi voulait-on l'oublier?
Pasqua Fatima les gonflait, mon ami. Pasqua Fatima les gonflait.
Et pourquoi Fatima les gonflait, mon ami? Pourquoi Fatima les gonflait?
Pasqua l'avait manifesté, mon ami. Pasqua l'avait manifesté.
Pourquoi l'avait manifesté, mon ami? Pourquoi l'avait manifesté?
Pasqua Noura s'est fait expulser, mon ami. Pasqua Noura s'est fait expulser.
Pourquoi s'est-elle fait expulser, mon ami? Pourquoi s'est-elle fait expulser?
Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers.
Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers.
Les papiers? Oh, il y a pas honte. Il y a eu abonnace. Den pei de calme. Soy talomé, n'accouche-t-il pas? Soy talomé, n'accouche-t-il pas? Hai pas mai besoin de papier? Vos font tout de mémoire.
Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami.
Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers.
Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter Pasqua Fatima, donc c'était les Fabulous Troubadours, et c'est extrait d'une compilation faite par RESF Marseille au profit des sans-papiers. Et donc on va tout de suite revenir donc, avec Mathilde Godoy et Marion Beaufils, mais aussi Isabelle Tarzali qui devrait nous rejoindre d'ici 5 ou 10 minutes, peut-être même qu'elle arrive, et Nadia Nguyen, donc sur déjà l'actualité du Ménilamlo et ce qui s'est passé cet été où ça a été particulièrement violent.
Oui, particulièrement violent, alors que pourtant, ça fait quand même des mois qu'on s'inquiète de ce qui se passe, qu'on alerte de situations qu'on voit et qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, on a atteint un point de non-retour cet été. Alors, très concrètement, nous, on a décidé d'arrêter d'aller au centre de rétention suite à un événement traumatisant et pour les personnes concernées au premier chef et pour les autres personnes enfermées au centre et pour nous C'est-à-dire que dans la même journée, on a eu 3 personnes qui ont menacé de se suicider. 2 qui sont montées sur le toit du bâtiment où elles dormaient en hurlant « Où est la justice ?» et une 3e personne qui a grimpé un grillage et qui s'est enroulée du barbelé, mais alors du barbelé de centre de rétention, donc faut imaginer un barbelé un peu plus dangereux que celui d'un champ, et qui se l'est enroulé autour du cou en menaçant de sauter. Voilà, tout ça sous nos yeux. Sachant que, donc ça c'était un mardi, et que c'était la 5e tentative de suicide depuis le week-end. Donc pour nous c'était le coup de grâce, quoi.
Mm-hmm.
Et en plus de ça, au même moment, il y avait une personne qui était placée à l'isolement après avoir fait une tentative de suicide justement, et qui avait entamé une grève de la faim. Et les placements à l'isolement, c'est une de nos revendications, sont très souvent utilisés à des fins punitives pour écarter finalement ces personnes en lieu et place de leur accorder les soins dont elles ont besoin. Et c'est un peu ce qu'on demande, nous, dans le centre, que les personnes en détresse soient accueillies sur le plan médical et non pas réprimées et isolées des autres comme elles le sont régulièrement.
Donc, oui. Non, je voulais juste rebondir en disant, parce que c'est vrai que nous, on a expliqué notre décision de se retirer par ces événements terribles qui ont eu lieu en quelques jours, mais en fait, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça faisait des mois et surtout des semaines que ça s'empirait, et en fait, c'est quand on a commencé à se dire bon, qu'est-ce que moi j'ai vu de choquant, et toi, qu'est-ce que t'as vu de choquant sur les derniers jours, dernières semaines, qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de nous banaliser des choses terribles. Et on cachait un peu tout ce qu'on voyait, parce que à part être dans le déni, il n'y avait pas d'autre moyen de continuer à intervenir. Et en fait, c'est quand on s'est posé et qu'on s'est rendu compte que en quelques semaines, il y avait une femme qui avait commencé à faire une fausse couche dans nos bureaux, un homme qui s'était fait frapper par la police. Mais en fait, pour chaque exemple, c'est pire qu'avant. Avant, il y avait des gens victimes de violences policières. Là, on avait un homme qui a une poche à la place de... Enfin, une poche reliée à ses intestins parce qu'il y avait des problèmes de santé. Mais là, les flics lui ont arraché. Et pour tous les exemples, des personnes qui ont des problèmes psy, des personnes... Pour toutes les choses que nous, on dénonce, ça allait de pire en pire. Et donc, le seul moyen de vraiment se poser et d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait, c'était de s'arrêter et de commencer à lister et puis d'aller voir le ministère en leur disant « Mais qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça ?»
Et aussi de faire le constat que dans ces conditions, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire notre accompagnement juridique dans des conditions tenables, quoi. C'est quand on a une personne en face de nous qui est complètement en détresse, qui est complètement perdue, c'est impossible de l'aider à faire les bons choix, continuer à faire nous notre travail alors qu'autour tout est en train de craquer. On a aussi beaucoup de personnes, on n'arrête pas de le dire mais on le redit, beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiatriques lourds, des personnes qui ne savent même pas forcément où elles sont, qui ne comprennent même pas. On avait un monsieur là, il y a quelque temps, qui pensait qu'il était à la gare de Poissy. Donc autant vous dire que cette personne-là, elle était incapable de comprendre la mesure qui lui était appliquée et ce qu'elle risquait dans le centre de rétention. Et c'est des personnes à partir de là où nous, pour exercer notre mission, on est bien obligé d'expliquer ce qui se passe aux personnes et d'obtenir leur consentement. Quand il y a des personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement, on ne peut pas exercer notre mission. Et dans ces cas-là, c'est des libérations médicales en fait qui devraient intervenir, qui n'interviennent pas. Et souvent, les réponses de l'administration, quand la personne devient gênante, c'est de la mettre en isolement, malheureusement.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que là, ça s'est multiplié depuis une très grosse année, en gros, et avec une accélération sur les derniers temps, mais de personnes qui refusent de parler, de personnes qui décompensent face à nous. On est incapable de reconnaître une pathologie, en fait. Donc, même...
Vous êtes juriste, vous n'êtes ni médecin, ni maton, ni... C'est pas la même mission, c'est pas le même boulot.
C'est ça.
Et... Donc, ces personnes... Vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre.
Et ces personnes, elles sont en danger, elles sont dangereuses pour les personnes avec qui elles sont enfermées, elles sont dangereuses pour nous. Enfin, elles ont besoin d'une prise en charge qui existe pourtant, mais en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur un enfant d'une personne étrangère n'est pas vraiment un enfant. Bah, une personne malade étrangère n'est pas vraiment une personne malade. C'est une personne étrangère d'abord. Donc l'administration règle le cas étranger et puis la partie maladie, ils verront ça plus tard, quoi.
Voilà, et puis si peut-être c'est une séquelle qu'on voit, donc l'enfermement est de toute façon toujours une horreur. Il y a quelques années, la durée de l'enfermement était de 6 jours, et que maintenant on enferme plus, et on est passé, donc c'était l'an passé, c'est passé à 90 jours, on est à 45 jours. Quelque temps auparavant, c'était à 30 jours, c'est passé à 45. Encore un petit peu avant, c'était à 12 jours, c'est passé à 30. Et puis, c'était il y a, je pense, une quinzaine d'années qu'on était à 6 jours pour la durée de rétention. Au bout de 6 jours, si la personne n'avait pas été expulsée, elle était immédiatement libérée.
Oui, mais c'est de pire en pire. Hein. Annoncer à quelqu'un qui s'est fait arrêter ce matin qu'il va sortir à Noël, parce que Noël, c'est dans 3 mois pile poil, les gens sont traumatisés à cette idée. Hein. C'est...
Et c'est l'allongement de la durée de rétention, c'est vraiment l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg sur la criminalisation de plus en plus forte des étrangers. C'est-à-dire qu'on enferme des personnes 3 mois alors qu'elles n'ont techniquement rien fait. On les enferme parce qu'elles sont étrangères. Enfin, on les enferme pour ce qu'elles sont et c'est très très dur à vivre parce que les personnes, souvent, elles arrivent dans le bureau et disent « mais j'ai rien fait, pourquoi je suis là, pourquoi je suis enfermée ?» Et on est bien obligé de leur dire « mais vous n'êtes pas là pour quelque chose que vous avez fait, c'est ça qui est terrible, vous êtes là pour ce que vous êtes. » Enfin, c'est affreux à vivre et à comprendre et à réaliser. Et on traite vraiment toutes ces personnes comme des criminels et c'est dans un but de détruire leur vie. Parce qu'en 3 mois, on perd son boulot, en 3 mois, on perd son logement. En 3 mois, on perd son réseau. Et c'est ça, en fait, que cherche l'administration. C'est à criminaliser, à isoler encore plus ces personnes. Et souvent, pour qu'elles se résoudent, pour qu'elles finissent par se dire qu'elles n'ont pas d'autre choix que de partir. C'est une guerre psychologique.
Et puis c'est efficace parce que vu les conditions de rétention, et c'est aussi ce qu'on dénonçait cet été, les personnes sont complètement dissuadées de rester. En période de canicule, tout le monde n'avait pas accès à l'eau potable toute la journée. Donc la nuit surtout, les gens, une partie des personnes enfermées n'avaient pas accès à de l'eau. Donc c'est des choses toutes bêtes, mais c'est tellement facile d'humilier les gens. Et c'est tous les jours au centre de rétention que... Forcément, il y en a qui craquent et puis c'est quelques-uns qui se battent pour tenir jusqu'à la fin, mais qui sortent démolis de là, quoi.
Oui, parce que se battre, même avec une forte volonté, quand tu restes 90 jours enfermé, évidemment, tu n'en sors pas indemne.
Non. Puis c'est 90 jours avec des conditions difficiles, 90 jours avec des humiliations permanentes, avec des jugements terribles. Les gens se font faire la morale à chaque fois qu'ils passent au tribunal. Enfin, c'est des moins que rien. Ils sont traités comme des enfants qui sont pas capables de prendre de bonnes décisions pour eux. Enfin, c'est terrible.
Et en plus, enfin, on peut préciser que quand on passe au tribunal, on ne sort pas du centre de rétention. Le tribunal est à l'intérieur. Même si administrativement, on passe une grille, on n'est pas forcément au courant qu'on a passé une grille administrative. En tout cas, on reste avec les mêmes policiers et dans le même environnement.
Ah oui, alors pour quand même leur montrer que c'est pas tout à fait au même endroit, en fait, ils passent par la rue, même si c'est dans la même enceinte.
Ouais.
Mais voilà.
Mais bon. Effectivement, les personnes retenues le disent eux-mêmes. Hein, c'est le juge, il l'appelle le juge bonjour 28 jours. Effectivement, on arrive, on s'assoit. Monsieur, comment vous appelez-vous? Voilà, bah, je vous rajoute 28 jours. Merci, au revoir. Quoi. Et souvent, les personnes disent, mais il ne m'a même pas écouté. Les personnes n'ont pas la possibilité de parler et d'expliquer ce qui leur arrive.
Alors, peut-être dire un petit mot sur la procédure, donc 28 jours. C'est quoi ces 28 jours?
28 jours, c'est simplement la première prolongation de la rétention. Au bout des 28 jours, les personnes repassent, si elles sont toujours dans le centre, devant le même juge d'ailleurs, qui rajoute 30 jours. Au bout des 30 jours, elles revoient le même juge qui peut rajouter 15 jours, puis encore 15 jours, et ça fait un total de 90.
Ouais. Tu rajoutes les 2 jours du début.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est... c'est un peu toujours le même cirque, quoi. C'est, on arrive, on est présenté, le juge prolonge, les personnes comprennent à peine ce qui se passe et puis elles sont ramenées dans l'enceinte, comme on dit, par la rue, mais effectivement, c'est là, au même endroit.
Mais c'est à la chaîne, hein. Il y a tellement de gens, il peut y avoir jusqu'à 15-20 audiences par jour, donc on voit des journées où les gens reviennent super tard le soir, vers 23h, minuit, enfin, c'est déjà allé bien plus tard sur des journées où il y avait beaucoup d'interpellations. Puis ça va pas aller en s'arrangeant, puisque là, aujourd'hui, il y a entre 90 et 100 personnes par centre. Donc au Ménil-Amelot, il y a deux centres. Et donc là, sur les prochaines semaines, mois, il y a des prévisions de monter à 100-110 personnes par centre. Donc il va y avoir encore plus, sur 120 places de chaque côté. Donc on s'approche du maximum. Il y a des recrutements d'effectifs policiers pour encadrer tout ce petit monde. Mais donc il va y avoir historiquement plus de monde qu'il n'y a jamais eu dans ce centre, dans un contexte où c'est vraiment la cocotte minute, quoi.
Nadia.
Voilà.
Et donc en tout cas, c'est une transition sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les.
Suite à la reprise, il y a eu des rencontres entre la CIMAD et puis l'administration du centre de rétention. Et il y a quelques petites choses qui ont été négociées, notamment ne serait-ce que pour rétablir un dialogue qui soit un peu plus fluide. Mais on constate, pour nous, ce qui était très important, c'était notamment la fin des isolements sanitaires, comme ils sont appelés, donc la fin de la mise à l'isolement pour des personnes qui essaient de se suicider, qui s'automutilent, etc. Et malheureusement, depuis la reprise, il y a déjà eu 5 placements à l'isolement de personnes suite à des tentatives de suicide ou suite à des actes d'automutilation. Donc on reste sur ces pratiques très criminalisantes. Et malheureusement, la plus grosse bataille à mener, c'est auprès du ministère lui-même, puisque ce qu'on constate, la décision de placer en rétention, c'est d'abord le préfet. Donc c'est au ministère qu'il faut aller taper. Et tout ce qui est pratiques illégales aussi des préfectures, c'est là aussi ce que ça se joue. C'est pas avec l'administration du centre directement. Donc on a repris parce que les conditions au centre, parce qu'on a rétabli le dialogue. Concrètement, mais les pratiques illégales des préfectures continuent, les enfermements de familles, d'enfants, de personnes malades, donc c'est pas gagné.
Le gros point d'actualité de la rentrée, c'est les familles, mais avant de vous donner quelques chiffres, c'est vrai que sur d'autres sujets, c'est la même chose. Pas plus tard qu'hier, une personne qui était gravement malade, sa vie était en danger. Sa pathologie, en l'occurrence la tuberculose, était connue. Elle avait une attestation du médecin sur elle disant qu'elle ne pouvait pas être expulsée, a été expulsée.
Ok, tuberculose, avion, c'est pas top.
C'est pas recommandé. Mais bon, c'est vrai que c'est les familles qui sont là sur la rentrée. Nous, c'est les familles qui nous ont le plus mobilisés, le plus inquiétés. Et ça fait écho un peu à ce qu'on se disait au début de l'émission. Mais les personnes se font arrêter dans des conditions, c'est en pyjama, n'importe quoi. Et puis des enfants très jeunes qui arrivent au centre.
Oui, on a l'exemple d'une famille irakienne qui a été placée 2 fois cette année. Donc la première fois, c'était les parents et les 4 enfants. Ils ont été libérés après 14 jours quand même d'enfermement suite à une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il a quand même fallu taper très haut pour qu'ils soient libérés. Et ils ont à nouveau été placés là à la fin du mois d'août. Comme les policiers, au moment de l'interpellation, ont trouvé que la mère et les enfants, le père n'était pas au domicile, ils ont embarqué la mère et les enfants, peu importe que le père, peu importe la séparation de famille. Et heureusement, ils ont été libérés devant le juge des libertés et de la détention au bout de 48 heures. Mais ça aurait pu être dramatique. Une mère expulsée avec ses 4 enfants et le père n'aurait même pas su que sa famille avait été embarquée. Enfin, on en est à ce point de méconnaissance des droits les plus basiques. Et donc là, jusqu'à 2 janvier à août, on a eu quand même 31 familles placées au Ménil-Amelot avec 68 enfants au total. Et là, depuis septembre, il y a 4 nouvelles familles qui ont été enfermées, mais vraiment coup sur coup, dont au total 9 enfants, avec des situations toutes plus dramatiques les unes que les autres. Donc je mentionnais tout à l'heure la famille albanaise, là où il y a une forte mobilisation au niveau des écoles des enfants. Il y a aussi une famille du Koweït, où c'était un couple avec 4 enfants, plus une nièce qui elle était majeure et aveugle, qui était en procédure Dublin, et que des situations comme ça dramatiques où il n'y a aucune considération de la vulnérabilité de ces personnes.
Et là, quand c'est les familles, pour nous, c'est toujours pire parce que, pour faire écho à ce que disait Mathilde, quand on explique à une personne adulte qu'elle est enfermée là pour ce qu'elle est, c'est déjà dur à avaler. Mais quand on explique à un enfant qu'il est enfermé là pour ce que sont ses parents, c'est en termes de relation après parent-enfant, de tout ce que ça peut casser, pour le but recherché, c'est un poil disproportionné, quoi. Il n'y a aucune réflexion sur les conséquences des décisions administratives qui sont prises à l'encontre des familles. Il n'y a rien.
Pourtant, il y a eu beaucoup d'études de psychologues qui expliquaient que les conséquences psychologiques sur les enfants d'être enfermés, et puis personne n'en tient compte, quoi.
Oui, d'être enfermé et aussi de perte de confiance
envers les parents.
Exactement. Oui. Oui, puisque dans le centre de rétention, ce n'est plus les parents ne décident de rien. Ils ne décident pas de l'heure à laquelle on mange, de l'heure à laquelle on se couche, de ce qu'on va faire, des endroits où on est trimballé sans même savoir pourquoi, etc. Parfois, pour être emmené au tribunal, en fait, les enfants sont laissés au CRA avec l'un des deux parents. Donc, les parents ne maîtrisent rien et les enfants le ressentent. Et il y a une perte de confiance qui est terrible. Et ça s'exprime par des pleurs, par des pertes du sommeil, par des enfants qui refont pipi au lit. C'est grave, en fait, les traumatismes que ça peut réveiller.
Oui, et on s'apprête à vaillamment, glorieusement commémorer au mois de novembre le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Oui.
Où, dans toutes circonstances, je n'ai plus l'article en tête, mais qui a été ratifié évidemment par la France, et où, en toutes circonstances, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer.
Voilà. Ben ça, on essaye encore de l'écrire dans les recours, mais je pense que ça n'intéresse plus que nous.
Nadia.
Ben non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intérêt supérieur de l'enfant, effectivement, ça n'intéresse plus que nous, sans doute. Mais c'est surtout que il faut quand même s'interroger sur la place des enfants de parents étrangers. C'est un enfant reste un enfant et ça, il faut pas l'oublier. Et je ne sais pas ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour le rappeler. On peut le rappeler, mais tout le monde s'en fiche. Enfin, tout le monde. Ceux qui prennent les décisions s'en fichent.
Là, il y a une grosse campagne de plusieurs associations et qui est un peu chapeautée par l'UNICEF, justement pour la fin de l'enfermement des enfants. Mmh. Et l'idée, c'est un peu de faire bouger les choses. Là, quelques jours d'un nouveau énième débat sur l'immigration qui devrait commencer au gouvernement dans quelques jours. Parce que finalement, le slogan de la campagne, c'est « Vous avez la clé ». Et effectivement, ce sont ceux qui font les lois qui peuvent mettre un terme à l'enfermement des enfants.
Mais sur ces sujets-là, comme sur d'autres, il y a vraiment le double discours de ce qui est annoncé et puis après de ce que nous, on constate dans les faits, parmi ce qu'on observe depuis qu'on a repris... sur un autre sujet, mais il y a énormément d'annonces du gouvernement sur ce qui se passe en Afghanistan, sur comment la France se mobilise. En parallèle, il y a des charters prévus plusieurs fois par semaine pour des Afghans, des gens qui sont soit expulsés dans des pays de l'Union européenne où on sait qu'ils vont être ensuite expulsés vers l'Afghanistan, ou des gens même qu'on prévoit d'en renvoyer directement en Afghanistan. Et là, on passe encore un autre palier cette semaine et puis la semaine dernière, puisque pour la première fois depuis tout le temps, en fait, je pense, on observe des expulsions de Somaliens. On n'était pas vraiment au courant que la Somalie était un pays sûr, mais il y a des vols, il y a eu une expulsion la semaine dernière, il y en a deux prévues demain matin. Voilà.
Et c'est là où on retrouve l'hypocrisie de l'administration. Quand on entend que, par exemple, le squat là, dont on parlait tout à l'heure, où finalement l'administration reconnaît que les associations font du bon travail, etc. Et puis d'un autre côté, attaque de partout. Et pour les renvoyer au Somalie, il y a aussi une telle hypocrisie de dire on peut renvoyer quelqu'un en Somalie, mais par contre, les escortes policières, elles, n'allez pas jusqu'en Somalie, attention. Eux, il fallait qu'ils fassent demi-tour avant. Et là, on se rend compte à quel point c'est, euh, C'est de l'hypocrisie pure, quoi.
Oui, mais c'est... Et quand on parle de Somalie, il faut quand même rappeler que la Somalie est souvent considérée comme étant égalité, comme dictature avec la Corée du Nord.
Mm-hmm. Non, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a un discours bien pensant d'un côté de soi-disant respect des droits humains, et puis de l'autre, on renvoie des gens vers des pays en guerre où on est quasiment certain que... qui risquent la mort, c'est une évidence.
Oui, bah c'est le cas des expulsions vers le Soudan, notamment.
Oui.
Mais pas que. Et voilà, donc, et Isabelle, donc, on nous dit que le bus de Isabelle, qui devait nous parler de la Guyane, est coincé, donc elle arrivera trop tard pour l'émission. Donc on va continuer sur ce qui se passe sur ce qui se passe en métropole.
Oui, puis l'outre-mer, ce sera une prochaine fois. C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire un peu un parallèle, surtout que pour avoir un peu échangé avec les collègues en Guyane depuis la rentrée, il y a un acharnement envers les étudiants. Donc c'est pas un sujet très éloigné de ce qui se passe ici aussi. Et c'est, enfin, la préfecture vise massivement les jeunes, donc lycéens majeurs et étudiants. Et ça aurait été intéressant d'avoir quelques infos, mais ce sera toujours d'actualité, je pense, la prochaine fois, malheureusement.
Voilà, et puis on pourra réécouter quand même les archives de l'émission RESF, où on a parlé de temps en temps et de la Guyane et de l'arrestation des étudiants étrangers, en particulier des Haïtiens et d'étudiants français, enfin d'étudiants français, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient français. C'est des choses qui peuvent arriver assez fréquemment, soit en métropole. J'ai rencontré une dame qui croyait être sans papier mais elle croyait qu'elle était malgache, mais elle savait pas qu'elle était aussi française. Et c'est des choses qui sont, si on réécoute notamment l'émission Singulier au pluriel du mois dernier, qui a été rediffusée hier et qui n'est pas encore sur le site Singulier au pluriel, où on voit comment Mayotte fabrique des étrangers.
Ah bah oui, c'est une machine à fabriquer des étrangers dans un endroit où ils ne le sont pas.
Voilà. Nadia, un petit mot encore ?
Non.
Non. Bon. Bah, avant de passer à la suite, je propose qu'on refasse une pause, une petite pause musicale avec, avec Akli, Aklidé, hein, c'est facile.
C'est pas facile. À Madame Francine, un verre, rien qu'un verre, et je vais rentrer chez vous. C'est pas facile, l'immigré jamais tranquille. C'est pas facile, à Marseille ou à Belleville. C'est pas facile, l'immigré m'a tranquille. C'est pas facile, je te le jure, monsieur Zindi. Combien de temps, combien de temps
pour l'intégration?
C'est facile, c'est pas facile. L'immigré jamais tranquille. C'est facile, c'est pas facile. À Toulouse ou à Belleville. C'est facile, c'est pas facile. L'immigré m'a tranquille. C'est facile. C'est pas facile, je te le jure, monsieur Zindi. Pour toi, il a tout quitté, le soleil, ses
Olivier. Oui, pour toi, il a transpiré. Douce France, douce souffrance. Ash'hal mazal.
Pour l'intégration.
C'est facile, c'est pas facile. Les maigres jamais tranquilles. C'est facile, c'est pas facile. Kahlouch manouche dans les cabines. C'est facile, c'est pas facile. Les maigres matchs tranquilles. C'est facile, c'est pas facile. À Marseille ou à Delville, à New York ou à Delville. Marseille, ou à Belleville.
Des fois c'est facile, des fois pas facile.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du RESF, un réseau d'éducation sans frontières sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous écouter en streaming un peu partout. Et on est toujours donc avec Mathilde Godoy et Marion Beaufils de la CIMAD et Nadia Nguyen du RESF. Et on va continuer un petit peu donc sur une campagne que lance la CIMAD maintenant.
Exactement. C'est hier qu'a eu lieu le lancement de la campagne « Quand tout bascule », donc la toute nouvelle campagne de la CIMAD qui inaugure toute une série de célébrations qu'il va y avoir pour fêter les 80 ans de l'association. C'est la première campagne de la CIMAD qui est conçue de manière collective avec les personnes étrangères qui sont accompagnées dans les permanences juridiques. Je pense que c'est ça qui fait sa force. Concrètement, c'est 4 vidéos qui retracent un peu le parcours de 4 personnes migrantes qui sont passées par les permanences de la CIMAD et qui nous racontent un peu les déboires qu'elles ont pu avoir avec l'administration, que ce soit lors d'une demande d'asile rejetée, lors de refus de titre de séjour, lors d'expulsion. Et donc ce sont 4 petits films d'animation pour préserver l'anonymat de ces personnes qui ont été illustrés à l'aquarelle par Agathe Bré-Bourré. Et vous pouvez les retrouver sur le site de la CIMAD, donc lacimad.org, et sur Twitter avec le hashtag « Quand tout bascule ». Et à partager, bien sûr, sans modération autour de vous.
Voilà.
Alors, je crois avoir vu, ce sont des petits films d'animation, mais avec la voix des personnes.
C'est ça.
Exactement. Ouais. Et c'est ça qui fait toute la force de cette campagne.
Il y a une campagne d'affichage qui va suivre, parce que je ne vais pas trouver le mot, tiens. Le visuel des vidéos va se décliner aussi en affiches. Donc, il y aura un affichage dans plusieurs villes de France des illustrations qui accompagnent les vidéos. Et ouais, c'est chouette. Donc, si vous pouvez partager au maximum sur Facebook, sur Twitter, forcément, ils sont allés partout.
Et l'idée de la CIMAD avec cette campagne, c'est vraiment de réhumaniser en fait, le débat sur l'immigration et de montrer que les problématiques qui touchent les migrants touche en fait n'importe qui. Donc c'est ça qui est intéressant.
Voilà, donc à voir, à faire circuler et à partager. Et puis donc avant de passer à l'autre agenda, quand même dire que ça en fait presque partie. Donc il va y avoir du 30 septembre au 2 octobre les débats à l'Assemblée nationale sur l'immigration et je pense que ça va être très nécessaire de les suivre, d'écouter ce qui se dit et en même temps de suivre donc les différents donc le Vade-Mecum qui est en train d'être finalisé ou qui est peut-être même fini d'ailleurs, lancé par la LDH.
Oui, j'ai eu l'impression qu'il était terminé. Oui,
oui, c'est aussi l'impression que j'ai. Enfin, oui. Je crois qu'il est terminé. Enfin, c'est tout neuf. Hein, donc Vade-Mecum à l'intention des participants au débat parlementaire sur la politique migratoire du 30 septembre au 2 octobre, avec comme question « La France est-elle humaniste, voire laxiste ?»« Le droit d'asile est-il dévoyé ?» Enfin, ça nombre de questions qui sont d'ores et déjà posées. Et dans les mobilisations, donc là, on est à la limite de l'agenda, ce sera pour le 9 octobre. Hein, c'est un problème qu'on rencontre dans toutes les préfectures lié à la dématérialisation des prises de rendez-vous. Nadia, tu peux nous en dire un petit mot ?
Oui, alors nous, on n'apparaît pas encore dans le planning des rassemblements, mais enfin nous, l'Essonne, mais ça va venir. On a une réunion demain pour le préparer. Donc la dématérialisation, je pense que tu en as parlé déjà beaucoup dans cette émission, c'est que alors suivant les préfectures, ça peut être soit pour le premier dépôt, la première demande de rendez-vous et les demandes de renouvellement, ou parfois juste les demandes de renouvellement, il faut prendre rendez-vous par Internet. Or, on peut se connecter pendant des jours, des semaines, des mois. On n'a pas de plage horaire disponible. Ce qui fait que des personnes qui ont déjà un titre de séjour n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour et donc se retrouvent sans papier pendant un certain nombre de mois. Ce qui veut dire difficulté pour conserver le travail, difficulté pour conserver le logement, perte si bon, il y a des enfants, suspension en tout cas des droits CAF. Ou perte, parce que tout dépend si le titre de séjour qui est donné après ne démarre pas à la fin du précédent, donc tous ces mois-là sont perdus. C'est-à-dire que la CAF ne fait pas de rappel sur ces mois-là. Donc c'est vraiment mettre toutes ces personnes dans une situation extrêmement compliquée, précaire. Bon, même chose pour les étudiants.
La préfecture fabrique des sans-papiers. Hein,
mais bien sûr. Et nous, là, ce qu'on a vu en Essonne, c'est un truc qui vraiment mais absolument écœurant. Donc, à la sous-préfecture de Palaiseau, il y a une espèce de procédure qu'ils appellent le GATE. G-A-T-E. Et qui est destiné aux étudiants du plateau de Saclay. Donc, post-master, doctorant et post-doctorant. Là, donc, il y a une famille qui n'arrive pas à avoir de rendez-vous pour demander le DCEM de leur gamin. Toute la famille a quelque chose, hein. Toute la famille a un titre ou un DCEM, mais le dernier enfant n'arrive pas à l'avoir puisqu'il n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Donc, on envoie un petit mail, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, nana. Aucune réponse. 2 jours après, on envoie un mail en disant « Ah, mais cet étudiant post-master n'arrive pas à avoir de rendez-vous, c'est extrêmement grave parce que, bon, je ne sais plus, c'est extrêmement grave pour lui, son titre s'arrête le 1er octobre. » Donc ça, c'était lundi. On lui donne rendez-vous vendredi. Mais on attend toujours la réponse pour le DCEM.
Oui.
Immigration, choisie, sélection, enfin bon, bref, quoi.
Les travers de la dématérialisation, ça va aller en s'empirant. Ça a été testé dans quelques préfectures et maintenant ça se généralise, mais ça fabrique des sans-papiers. Il y a maintenant des revendeurs de rendez-vous.
Là, c'est quelque chose qui, je crois, a été testé, il me semble, à la préfecture de Créteil et qui, du point de vue de l'administration, a l'immense avantage de supprimer les files d'attente physiques, puisque...
Alors oui, ça a supprimé les files d'attente physiques pendant quelques temps, mais en Essonne, en fait, non, plus maintenant, puisque les personnes n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, en désespoir de cause, elles viennent. Et là, on recommence à voir devant la préfecture d'Évry des files d'attente qui commencent à 15h la veille pour le lendemain, et les personnes qui reviennent encore parce qu'elles n'arrivent pas à accéder au guichet. Donc c'est fiasco complet, cette dématérialisation.
Voilà, donc on va en reparler très vite, et maintenant on va passer à notre agenda stricto sensu. Alors ça commence par un rendez-vous au tribunal administratif, hein, rue de Jouy. C'est très important d'aller au tribunal administratif, c'est le 1er octobre à 10h, où il y a un appel à être nombreux ce jour-là pour soutenir Mariam Diaby. Et puis, avec ou sans papier, on paye des impôts, sauf que quand on est sans papier, c'est un petit peu plus compliqué et qu'on a besoin d'être parfois bien conseillé. Donc, il y a des permanences fiscales qui viennent de se monter. Donc, ce sera le jeudi 26 et vendredi 27 septembre. Donc, de 10h à 18h au local de Droit Devant, hein, 47 rue de Dantzig, dans le 15e, au métro Porte de Vanves. Au collectif des sans-papiers de Saint-Just de 10h à 18h30 au foyer Saint-Just, hein, 15 rue Saint-Just au métro Porte de Clichy, ou à la coordination 93 des CSP, hein, collectif des sans-papiers, de 15h à 20h à la Bourse du Travail de Saint-Denis, 911 rue Guénin, donc à Saint-Denis au métro Saint-Denis. Et le 26 septembre à 19h au bar Le Lieu-Dit, 6 rue Sorbier, donc ce sera... Un peu vite. Donc le 26 septembre à 19h au bar de Lieu-dit, 6 rue Sorbier, dans le cadre de la semaine antiraciste du 20e, le collectif 20e solidaire organise un débat, donc construire les solidarités locales. C'est un débat dans le cadre donc, de la semaine antiraciste du 20e, avec plusieurs intervenantes qui parleront d'exemples concrets, l'expérience de RESF dans le 20e, les grèves des travailleurs sans papier de 2009-2010, de l'expérience de Riace, hein, ce petit village de Calabre en Italie dont on a déjà parlé dans cette émission, et de ce qui se fait aujourd'hui dans le 20e. Samedi 28 à midi, il y aura un repas de soutien aux travailleurs sans papier de Chronopost. Donc c'est à la pagaille recyclerie d'Ivry, Ivry-Port, 15 rue Ernest Renan à Ivry-sur-Seine. Et on peut toujours passer tous les jours apporter sa solidarité donc aux travailleurs de Chronopost. Dimanche 29 au cinéma L'Escurial, c'est 11 boulevard de Port-Royal au métro Gobelin. Il y aura une séance exceptionnelle qui, au cinéma L'Escurial de Murs de papier. C'est un documentaire inédit de Olivier Cousin en partenariat avec la LDH. Et donc, ça sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice et des bénévoles de la CIMAT qui interviennent dans le film. Le 27, à partir de 13h, un rassemblement devant le tribunal de grande instance de Paris en soutien aux occupants de l'ambassade du Tchad pour leur procès. Et dimanche 29, il y aura une soirée de solidarité avec le collectif Réfugiés Tchadiens, ou CICP, Centre international des cultures populaires, 21 Terre rue Voltaire, avec rencontre et discussion avec le collectif, point sur la situation. Et cette rencontre sera retransmise avec des concerts, bien sûr, dans l'émission Constroy, donc sur FPP, dimanche après-midi en direct, avec donc, bien sûr, un concert de King's Queer et de, pour X raisons, électropunk et post-punk et un autre groupe. Et mardi 9 octobre, on en a parlé et on en reparlera. Ce sont les rassemblements devant les préfectures. Voilà, et eh bien merci beaucoup, merci Nadia.
C'est un plaisir toujours de venir.
Et c'est un plaisir de te recevoir aussi. Merci Mathilde.
Merci beaucoup.
Merci Marion, merci Maya la technique. Et tout de suite, les oreilles longues du front. Au revoir et à la semaine prochaine.
OQTF, obligation à quitter le territoire français.
Bon, attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.